On a deux spécialistes qui vont venir nous parler de ces histoires de mémoire, puisque le lundi, Anne de Biran, dans la méthode scientifique, il est toujours question de l'humain. Le cerveau est au moins aussi compliqué que l'univers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un de nos deux invités. En cette semaine de la mémoire et à deux jours de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, nous allons parler eh bien, de mémoire, justement, de l'état des connaissances sur les processus de mémorisation. Vous verrez que la mémoire, c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Et nous ferons également un point sur l'avancée des recherches dans la lutte contre les maladies neurodégénératives. Troubles de la mémoire, quels espoirs thérapeutiques, c'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le point sur l'état de nos connaissances, nous sommes ravis d'accueillir deux spécialistes du cerveau autour de cette table. Bruno Dubois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurologie à l'université Pierre et Marie Curie. Nous sommes également avec Yves Agide. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, fondateur et directeur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. La phrase que je citais en présentation tout à l'heure, le cerveau est au moins aussi compliqué que l'univers, elle est de vous, Yves Agide. Ça veut donc dire qu'on en sait aussi peu sur le cerveau que sur l'univers ?
La phrase est banale, hein, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que le cerveau, c'est un peu de gélatine, un peu moins de 3 livres, placé sous le crâne. Et là-dedans, effectivement, c'est très compliqué. Je disais, si mes souvenirs sont bons, que c'était en petit ce que l'univers était en grand. C'est-à-dire que ben, vous avez 100 milliards de neurones, encore plus d'autres cellules. Et pour le dire de manière assez, disons, caricaturale, dans votre cerveau, cher monsieur, à l'instant précis, en une seconde, passe 1 milliard de milliards de signaux en une seconde.
C'est beaucoup. Vous êtes d'accord avec cette définition, Bruno Dubois ?
Totalement, totalement d'accord. C'est ça qui est étonnant, c'est cette conjonction de phénomènes élémentaires extrêmement complexes et très, très, je dirais, vibrionnant et qui arrive à gérer de la cohérence. Et de la, c'est assez extraordinaire. Comment est-ce que ça arrive à drainer une pensée
Si oui, vous avez un cerveau qui est matériel. Mm-hmm. C'est de la matière. Et puis ça produit de la pensée qui, jusqu'à preuve du contraire, est entre guillemets immatérielle. Comment de la matière peut provoquer de l'immatériel, entre guillemets ? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est soumis à des myriades d'informations en ce moment même. Et puis, on arrive, comme le disait Bruno Dubois, à avoir un comportement cohérent, à parler, à agir, à ressentir, même à avoir de la conscience même d'exister. La conscience, c'est-à-dire une réflexion sur soi-même, sur nos propres pensées, c'est quand même stupéfiant, non ?
Ça l'est. On va d'ailleurs essayer de comprendre un peu plus, grâce à notre cerveau et grâce à votre aide, messieurs, comment fonctionne ce cerveau et comment il dysfonctionne. On en parlera plus tard. Mais commençons peut-être par la mémorisation, la mémoire. Qu'est-ce que c'est que la mémoire ? Qu'est-ce que c'est qu'un souvenir, Bruno Dubois ?
Alors, d'entrée de jeu, vous ciblez, je dirais, la mémoire comme la capacité à se rappeler. Alors, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes, la mémoire des événements, la mémoire de ce qu'on a vécu et notre capacité à rappeler ce qu'on a vécu. Alors là, cette mémoire, elle est assez bien connue. Celle-là est assez bien connue parce qu'elle est fondée sur un principe qui est très simple, c'est d'enregistrer l'information, de la stocker dans le cerveau et de la récupérer. Et on connaît les trois étapes que l'on a pu isoler et surtout on connaît les bases neuronales de chacune de ces étapes.
Alors quelles sont-elles ces étapes ?
Alors la première, l'enregistrement. c'est l'attention. C'est la capacité à être attentif à ce qui se passe autour de nous. Si pour une raison ou pour une autre, parce que vous êtes déprimé, parce que vous êtes fatigué, parce que vous prenez des médicaments, parce que votre esprit est pris est occupé ailleurs, parce que vous êtes surmené, vous n'allez pas être attentif à ce que je dis, par exemple. Mmh.
Je suis très attentif pour le moment, Bruno.
Bon, c'est bien, c'est bien. Déjà, la première étape est assurée. Mais si, pour une raison ou pour une autre, vous ne l'étiez pas, vous n'allez pas pouvoir garder en mémoire une information que vous n'avez pas bien enregistrée, que vous n'avez pas bien captée. Donc ça, c'est plutôt les régions pariétales, on va dire.
Pariétales.
Pariétales, c'est une région du cerveau qui est impliquée dans cette mémoire de travail de premier degré.
Et qui se situe où, pour nos
Qui se situe, on va dire, aller au-dessus des oreilles.
D'accord.
Bon. Après, cette information est envoyée comme un ballon de rugby vers une structure qui est chargée de la mettre en mémoire. Il y a un péage, et puis à partir de là, il y a l'autoroute des souvenirs, et ce péage, c'est l'hippocampe. Quand l'hippocampe est malade, comme dans la maladie d'Alzheimer, l'information a bien été enregistrée, mais elle ne sera pas transformée en trace de mémoire. Elle ne va pas pénétrer dans cette autoroute des souvenirs. Résultat, l'information ne sera pas stockée dans le cerveau. Elle sera perdue. Mais cette fois-ci, pas parce qu'on a été inattentif, mais parce qu'on n'a pas stocké l'information. On ne l'a pas transformée dans un langage neural. Et puis après, c'est notre cas à tous. On a été attentif, notre hippocampe marche bien, c'est dans le cerveau. Mais parce qu'on est fatigué, parce que c'est difficile de récupérer parfois l'information, on a du mal à la restituer, à la récupérer. Et ça, ça dépend du lobe frontal. C'est ce qu'on appelle le syndrome du bout de la langue. Je sais que ça va revenir. Voilà. Et ça, c'est les trois étapes de la mémoire épisodique. Donc, cette première mémoire, elle est simple, on la connaît. Et on connaît, je dirais, les dérèglements qui en sont responsables.
Et la deuxième mémoire, alors?
Ah, mais il n'y en a pas deux. Mon pauvre, il y en a cinq.
Alors, allons-y.
Non, la deuxième, elle est très, très intéressante. Mm-hmm. Et c'est surtout la seconde sur laquelle je voudrais qu'on assiste.
Bien sûr.
C'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique, la mémoire des connaissances sémantiques. Autant la première, elle est personnelle. Ce que j'ai fait la veille, ce que j'ai fait le 1er janvier, c'est différent de ce que vous avez fait. Bon, donc ça, c'est très personnel. Et le cerveau n'a pas pu trouver une façon de stocker de façon cohérente les choses. Pour ce qui est de la mémoire sémantique, la mémoire des connaissances, le cerveau a su structurer l'organisation de nos savoirs dans une région précise du cerveau. Ce qui fait que cette mémoire sémantique peut être altérée alors que la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes, de nos événements, est préservée. Alors la mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances que nous partageons. Rome est la capitale de l'Italie, Napoléon est un grand empereur français, etc. Nous avons tous ce savoir-là, c'est un savoir que nous avons partagé, et nous l'avons structuré progressivement par notre développement, par notre scolarisation, etc. Et ça, c'est une autre mémoire, ce qui fait qu'on peut avoir une atteinte de sa mémoire des épisodes personnels, mais garder le savoir sur les choses de la vie, sur le langage. On peut continuer à parler, vous voyez, on garde les acquis.
Ça veut dire que la distinction mémoire à court terme et mémoire à long terme, elle n'est pas opérante, Yves-Agide, elle est trop caricaturale, il y a plus de mémoire que ça?
Non, c'est très important. Vous avez à ce moment-là trois types de mémoire. Vous avez une mémoire qui est immédiate, c'est-à-dire que si je vous dis quelque chose, hein, je viens de le dire là, ça reste en mémoire quelques secondes chez vous, et puis ça va, heureusement, vous allez l'oublier. Que ferait-on s'il fallait mémoriser tout ce qui est autour de soi? Donc on oublie, c'est quelque chose d'immédiat. Puis vous avez la mémoire des faits récents, qu'est-ce que vous avez dîné hier soir par exemple, le week-end dernier vous étiez peut-être au cinéma, est-ce que vous pouvez me redonner le titre du film, qu'est-ce qui s'y est passé, etc. Puis vous avez les souvenirs très anciens. Alors c'est tout ce qui s'est passé qui a été vraiment engrammé, des traces mnésiques fortes de votre existence, par exemple la date de vos fiançailles, le jour où vous avez fait le service militaire, enfin vous faites plus le service militaire peut-être, mais nous c'est important, ou de l'enfance. Et ce qui est important, c'est qu'au cours du vieillissement, ce qui n'est pas la maladie d'Alzheimer, comme tout le monde sait toujours, on oublie les noms à partir d'un certain âge, on a un petit peu plus de difficultés que quand on avait 20 ans. Et en effet, on a des difficultés pour se rappeler les faits récents, ce que vous avez fait récemment, alors que les faits très anciens persistent. Des gens très très âgés, qui ont disons 90 ans, etc., peuvent se rappeler avec beaucoup de précision tout ce qui s'est passé dans leur enfance ou leur jeunesse, alors que des faits plus récents peuvent avoir disparu.
Oui, Bruno Dumois.
Le point que vient de souligner le professeur Gilles est très très intéressant, permettez-moi de développer. C'est un point fondamental en clinique humaine, parce que justement, sur la base de cet hippocampe qui est cassé dans la maladie, d'Alzheimer en particulier, on ne peut plus acquérir de nouveaux souvenirs. Mais la mémoire fonctionnait avant. Donc, avant, on a pu stocker de l'information. Donc, on a des choses dans le sac à souvenirs. On ne peut plus en mettre, mais on en a qu'on peut récupérer. Et il y a ce paradoxe qui est troublant de ces familles qui nous amènent qui nous apportent leur passion en nous disant « ça ne doit pas être bien grave, sa mémoire est bonne, il se rappelle du nom de sa maîtresse d'école. » Mais est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il a eu à dîner hier ? Non. Eh bien, nous, ça nous inquiète. Vous voyez, le paradoxe, c'est que la mémoire n'est pas forcément bonne si on se rappelle des choses anciennes, mais si on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait la veille.
Du coup, ce qui m'amène à ma question suivante, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'avoir ou non une bonne ou une mauvaise mémoire ? À partir de quel âge il faut se dire, oula, je commence à avoir peut-être des petits problèmes à mémoriser des informations nouvelles ? Est-ce que c'est inquiétant ou pas ?
Alors là, je crois qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter de sa mémoire. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter de sa mémoire. On a tous des problèmes de mémoire. On a tous... On passe son temps à chercher ses lunettes, son journal, d'autant plus qu'on prend de l'âge. Ce journal, ses clés, sa voiture le matin. C'est quelque chose d'extrêmement banal. Donc ne nous préoccupons pas de cela. Quand c'est sérieux, c'est assez énorme pour que l'entourage s'en rende compte. Voilà. Et là, il y a un seuil qui est un seuil dont tout le monde se rend compte qu'il est pathologique. Vous voyez, la personne qui va se perdre dans son quartier, la personne qui est dans un environnement nouveau et qui n'arrive pas à se repérer, qui ne trouve pas la chambre d'hôtel, alors que ça fait déjà 2 jours qu'elle est là, etc.
Mais c'est ce que tu dis toujours, c'est-à-dire, tu interroges les gens autour, tu leur dis qui ne se plaint pas de sa mémoire. Et à ce moment-là, tout le monde lève le doigt. Enfin, plus exactement, personne ne lève le doigt. En effet, dans le vieillissement, le trouble de mémoire, disons, de la personne âgée, les gens se plaignent de leur mémoire. Moi, c'est ce qu'on appelle la plainte mnésique. Moi, je me plains de ma mémoire. Toi aussi, probablement, un petit peu. Alors que bien souvent, les gens qui ont des troubles de mémoire avérés, pas toujours, heureusement, bien souvent, quand les troubles de mémoire sont sérieux, les gens ne s'en plaignent pas. Exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est l'entourage qui s'inquiète.
Alors, je le disais en introduction, c'était il n'y a pas très longtemps, vous vous en souvenez peut-être, la mémoire, ça se travaille, c'est comme un muscle, et justement, Céline Lezen a rencontré un athlète de haut niveau. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas, bonjour messieurs.
Alors, c'est qui cet athlète de haut niveau ?
Alors, j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer Sébastien Martinez. Alors lui, il est champion de France 2015 de mémoire, hein, rien que ça, et il vient de sortir un livre qui s'intitule « Une mémoire infaillible, comment briller en société sans sortir son smartphone ?» Paris aux éditions Premier Parallèle.
C'est donc un champion de France, c'est que la mémoire est bien un sport.
Exactement, et vous Nicolas qui êtes un grand sportif, vous devriez tester, ça pourrait vous plaire. Alors tous les jours une petite séance de 20 minutes pour muscler sa mémoire, ça peut être utile. Et même quand on est mauvais comme moi, on progresse assez vite, j'en suis témoin.
Et ça ressemble à quoi des séances d'entraînement de mémoire, Céline ?
Alors vous allez écouter dans ce reportage, je me suis prêtée au jeu avec Sébastien Martinez dans des exercices complètement loufoques. Je l'ai rencontré pour le tester, mais en fait, c'est lui qui m'a mise à l'épreuve. C'était pas évident, mais maintenant, j'ai une bonne technique pour retenir les décimales de pi, par exemple, au moins les 40 premières. Écoutez.
Attention, il y aura un test tout à l'heure.
Alors, si je vous dis taureau, talon, panneau, châle, mâle, vampire, cape, mine, muffin, ruche, neige, rame, muffin, ça vous évoque quoi ?
C'est une histoire, et d'ailleurs, c'est le chiffre pi aussi. C'est une histoire là qui serait du livre là où j'en parle. L'idée, c'est lorsqu'on vous donne juste une liste de mots comme ça, normalement, si vous faites le test, vous allez vous en souvenir aller entre 5 et 9. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'empamnésique, c'est notre capacité à stocker le nombre d'informations.
La mémoire vive.
C'est ça, la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Par contre, si après, lorsque vous avez ces mots, vous créez des associations, vous utilisez vos 5 sens et vous réveillez un peu cette flamme d'enfant, vous imaginez un taureau qui gratte avec des talons, ouais, qui propulse son talon sur un panneau. Ça peut être, il vibre ce panneau, et ce panneau, on peut imaginer qu'il a froid, du coup, il y a un châle, vous voyez, qui est attaché à ce panneau. Ce châle, vous le suivez par l'esprit, et là, vous le voyez qui s'accroche dans une malle. Cette malle, vous l'ouvrez, là, il y a un vampire qui sort, voilà, etc. Vous avez la liste des mots, et ça vous permet de l'encoder, donc de le mémoriser. Et si je vous ai dit le chiffre pi aussi, c'est autre chose, on a rajouté une stratégie, c'est un vieux système de mémorisation qui s'appelle le major système, qui consiste à transformer des chiffres en consonnes, et avec ces consonnes on fait des mots.
Donc par exemple le T égale à 1, le L égale à 5.
C'est ça, le T c'est le 1, le R c'est le 4, donc taureau 1, 4, T, R. Alors bien sûr devant il y a le numéro 3, hein, 3, virgule, alors taureau 1, 4, 14, ça tout le monde le connaît. Et après on a donc un talon, donc T ça fait le 1, le L ça fait un 5, 15, etc., etc.
J'ai un peu de mal à vous suivre. Là, c'est des règles que vous vous imposez ou...
Non, ça, c'est des systèmes qui ont été inventés au XVIIIe siècle, même il y en a plus anciens. C'est un système possible, hein, il y en a plein. Ce qu'il faut voir, le plus intéressant avec la mémoire, c'est le but, c'est de créer du lien. Pour créer du lien, il y a deux voies, la voie de la logique, la voie de l'imagination. L'idéal, c'est d'utiliser les deux en même temps. Là, on utilise un système qui structure, qui transforme des chiffres en des consonnes. Et après, avec de l'imagination, on crée des histoires et ça permet vraiment de mélanger. Si vous aviez à mémoriser les capitales du monde, vous prenez la Biélorussie. Le but, c'est de mémoriser la Biélorussie qui est associée à Minsk, sa capitale. Comment vous faites pour créer un lien entre ces deux? Alors, première possibilité, c'est Biélorussie. À quoi ça vous fait penser?
Là, tout de suite, ça me fait penser Biélorussie. Non, en fait, je réfléchis trop, je crois.
Mais c'est ça. L'idée, c'est d'avoir une accroche. Boum, vous prenez une Biélorusse, par exemple. Et après, pareil avec Minsk. Encore une fois, vous filtrez. Est-ce que vous avez un lien logique? Minsk, est-ce que vous êtes déjà allé là-bas? Est-ce que vous connaissez quelqu'un ou une équipe de foot peut-être qui vient de là-bas? Mais si vous n'avez pas ces liens, à vous d'utiliser l'imagination. Donc Minsk, on pourrait penser à quoi? À du thé à la menthe, vous voulez, mint. Ou on pourrait penser à Mini qui fait du ski, vous voyez, des Minsk, Mini, ski.
Oui, je pense que chacun a sa propre imagination et fait ses propres correspondances.
C'est exactement ça. Et une fois qu'on a ces correspondances, après, il n'y a plus qu'à créer un lien. Donc là, vous imaginez cette Biélorusse. On a pris le thé à la menthe, Minsk par exemple, et on imagine que cette Biélorusse est en train de siroter un thé à la menthe tranquillement. Et là, vous voyez, si vous imaginez, le but c'est ça, c'est d'imaginer avec ces cinq sens, vous créez un lien, vraiment un encodage, ce qui va vous permettre, après, si je vous dis Biélorussie, vous pensez...
Voilà. Une Biélorusse qui boit du thé à la menthe.
Voilà, et donc thé à la menthe, ça veut dire...
Biélorussie, Minsk, pardon.
Minsk, voilà, c'est exactement ça, vous avez tout compris, et vous avez créé un lien vient l'imagination. On sait qu'aujourd'hui, notre capacité à mémoriser, on part du principe qu'elle est infinie. C'est comme une toile d'araignée. Donc, plus on va apprendre des informations, plus ça va être facile d'en apprendre de nouvelles. On dit bien que des gens qui parlent 3, 4, 5, 6 langues, la langue supplémentaire est beaucoup plus simple à apprendre que les premières. Mais c'est comme ça. Notre cerveau, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il fonctionne par association. Et plus on en sait, plus c'est facile d'en apprendre de nouvelles. L'exercice des capitales, c'est intéressant pour stimuler l'imagination. Et s'entraîner, s'amuser à apprendre ces paires, ces couples d'informations, en utilisant cette voie de l'imagination. Un peu loufoque. Si je vous donne la Macédoine, ouais, Skopje, la capitale. Donc Macédoine, à quoi ça vous fait penser?
Des légumes.
Ouais, des légumes, ouais, la salade, la Macédoine. Voilà, là c'est un lien logique, vous voyez. Enfin, c'est logique, c'est à moitié logique parce que la Macédoine c'est une salade, voilà, donc on prend cette salade. Et Skopje, ça peut faire penser à quoi, tiens?
Skopje, je sais pas, du scotch.
Du scotch sur les pieds, ouais. Ok, donc on a du scotch sur des pieds et une salade Macédoine. Donc là, il n'y a plus qu'à créer un lien. On peut imaginer qu'on a une salade là par terre et on a un pied qui avec du scotch, une sorte de laisse, vous voyez, la laisse est reliée à la salade et la personne avance avec sa salade qui est en scotch, qui est scotchée juste à côté. Et
donc, ça donne des histoires complètement tordues.
Complètement barrées, c'est exact. Mais c'est là qui est intéressant, c'est réveiller cette flamme d'enfant. Parce que quand je travaille avec des jeunes qui ont 8 ans, mais eux, ils ont, et c'est nos limites avec l'imagination. Et plus on évolue, on grandit, et moins on sollicite cette imagination. Elle est chez nous, quelque part. Il faut juste la stimuler, l'encourager. Et je sais que par expérience, on y arrive. Donc, c'est un bon exercice à faire de vous entraîner. Maintenant, si je vous redemande, voilà, Macédoine, ça vous fait penser à quoi?
C'est une salade.
Voilà, une salade. La salade, elle est accrochée à quoi?
Elle est accrochée à une laisse et puis je piétine dessus.
Voilà, donc il y a un pied, il y a la laisse, elle est avec quoi comme matériau? Voilà, scotch. Donc c'est la capitale, ça s'appelle?
Skopje,
voilà, exactement. Vous voyez, en reconstruisant comme ça le fil du souvenir, de l'information, vous retrouvez la connaissance. Vous entraînez tous les jours, vous en faites, une dizaine par jour. Et en 20 jours, en moins d'un mois, vous avez toutes les capitales du monde. On est tous des génies de la mémoire, il n'y a que deux secrets. Un, connaître les techniques et après, il faut s'entraîner.
On est tous des génies de la mémoire, Bruno Dubois, Yves Agide, vous êtes d'accord?
Ouais. D'un côté, on a rencontré pas mal d'hypermnésiques comme ça. Finalement, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui s'entraînent beaucoup, un peu comme les sportifs, vous dites, avec le muscle. Le grand problème pour moi, c'est que si c'est comme pour le sport, si vous vous musclez en faisant de l'haltérophilie, le jour où vous arrêtez, en deux semaines, les muscles reviennent à leur taille normale. Je soupçonnerais que c'est la même chose pour la mémoire. Il y a une autre chose avec ces génies, entre guillemets, c'est que ils travaillent beaucoup, mais ils ne travaillent que ça. C'est souvent comme quelque chose d'un petit peu obsessionnel, d'amusant, dans l'impression que ce jeune homme, si c'est un jeune homme, avait l'air de s'amuser, ça l'intéresse. Et donc, il y a quelque chose d'obsessionnel, bien souvent, chez ces personnes qui sont des hypermnésiques.
Bruno Dubois, vous confirmez?
Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec cette approche. Ce que je dirais, c'est que c'est le problème de la transférabilité. C'est-à-dire que ce talent qu'on développe restera, je dirais, relativement ciblé sur la connaissance des capitales du monde. Bon, c'est pas inintéressant, hein. Mais c'est pas pour autant que il apprendra plus facilement la tirade d'Alceste de Molière. Voilà, c'est le problème de la transférabilité. Mmh. C'est-à-dire que il y a un truc, on sent le truc, et c'est intéressant, ça permet de coller, d'assembler des relations, mais sur un matériel relativement limité. Et ce côté limité, sauf à multiplier les champs, mais à ce moment-là, ça devient des bêtes savantes.
Hein. Il faut le replacer, je crois, dans son contexte. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, parce que c'est un peu caricatural ce que vous avez montré, mais le vrai problème, c'est de transférer ça pour nous-mêmes, pour le citoyen moyen, et notamment la personne âgée. Alors, il y a des techniques qui sont données ici et là pour fortifier la mémoire, entre guillemets. Gym cerveau, etc., etc. Je crois que ça, c'est très utile. Personnellement, je pense que c'est utile de toute façon parce que ça entraîne les activités cérébrales, c'est clair. C'est aussi très important du point de vue psychologique, je pense. C'est-à-dire que donner aux personnes âgées l'impression, justifiée d'ailleurs, qu'ils participent à améliorer leur mémoire, ou entre autres à la conserver, c'est psychologiquement très bon, c'est très motivant, on augmente leur motivation, je pense.
Oui, Bruno Desmois ?
Oui, bien sûr, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Yves. Un dernier point, si vous voulez, sur cette propension à améliorer la mémoire, je pense qu'en réalité, au-delà de cette approche qui est intéressante, mais qui est fondée sur un truc, comme je le disais, en vrai, il me semble que la vraie méthode, c'est pas celle-là. La vraie méthode, si vous voulez, c'est d'avoir au départ, et ça, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde, mais un intérêt ou une motivation d'apprendre. Et à ce moment-là, vous allez avoir, au cours de votre développement, je dirais, des territoires sur lesquels vous allez pouvoir insérer les savoirs nouveaux. Mais si vous n'avez pas ces territoires déjà, si vous n'avez pas cette attention, cet intérêt pour les choses, pour l'histoire, mais ce que vous allez vouloir implanter dans des territoires ne prendra pas. Et donc, il y a quand même derrière cette idée d'avoir un socle de connaissances de base sur lequel on va pouvoir greffer des savoirs nouveaux.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Donc, on vient de parler de la mémoire et des processus de mémorisation. Ça, c'est quand le cerveau fonctionne bien. On va maintenant parler du cerveau qui fonctionne mal. Je le disais tout à l'heure en ouverture, hein, c'est après-demain la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Il y a la maladie de Parkinson, il y a la sclérose en plaques, un certain nombre de maladies neurodégénératives. Il y en a, en fait, c'est une gamme de palettes. Est-ce qu'on connaît même toutes les maladies, toutes les affections? Il y a quelques-unes qui ont été identifiées il y a très peu de temps, Yves Agide.
Oui, il faut définir ce qu'on appelle maladie neurodégénérative. Par parenthèse, la sclérose en plaques n'est pas une maladie neurodégénérative, c'est une maladie auto-immune. Mais, en effet, qu'est-ce que c'est dans le cerveau le phénomène de dégénérescence nerveuse, par rapport la normalité chez une personne âgée. Au fond, quelle est la différence dans le cerveau entre quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer et quelqu'un qui est entre guillemets normal? Qu'est-ce que c'est que la normalité? Eh bien, on peut dire deux choses. La première chose, c'est que le nombre des neurones chez le patient qui est atteint d'Alzheimer diminue progressivement, mais plus rapidement que dans le vieillissement normal. Plus rapidement. Si tant est que d'ailleurs dans le vieillissement normal, il y a vraiment une perte de neurones. Si elle existe, elle est très faible. La deuxième chose, c'est que c'est une perte de neurones qui ne touche pas l'ensemble du cerveau. C'est pas tous les neurones qui dégénèrent à la même vitesse. Ce sont dans des endroits spécifiques. Bruno l'a dit tout à l'heure, dans la maladie d'Alzheimer, habituellement, ça commence dans les régions qui sont derrière les oreilles, là, les régions temporales, dans la petite structure qui s'appelle l'hippocampe, ce qui veut dire que les gens qui débutent une maladie d'Alzheimer commencent souvent par avoir un trouble de la mémoire.
Bruno Desmois ?
Oui, exactement. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cerveau n'est pas comme le rein, comme le poumon, une structure équipotentielle. Il y a en réalité, vous le savez, des territoires différents, et chaque territoire assurant une fonction spécifique. Alors, comme l'a rappelé Yves, les lésions ne sont pas homogènes, elles touchent préférentiellement certaines régions, on va avoir certains symptômes spécifiques qui vont déterminer telle ou telle maladie. Par exemple, la maladie d'Alzheimer est une atteinte dégénérative qui touche certains territoires de cerveau qui vont être responsables, à cause des territoires touchés, préférentiellement de troubles de mémoire, de troubles de la parole, de troubles de l'orientation spatiale, puis des troubles de comportement. La maladie de Parkinson est différente. Elle touche d'autres territoires cérébraux et l'atteinte de ces territoires, d'origine dégénérative aussi, donne des symptômes différents, qui sont les troubles moteurs, avec un tremblement, une rigidité, une akinésie, puis parfois des troubles cognitifs. Bon, la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, est une autre maladie dégénérative qui touche d'autres régions du cerveau qui va être responsable d'autres symptômes, les atrophies cérébelleuses, etc., etc. Donc toutes les maladies dégénératives ont un tropisme particulier pour des populations de neurones qui déterminent une présentation clinique que le clinicien reconnaît et dit « ça c'est une maladie d'Alzheimer » ou « ça c'est une maladie de Parkinson », etc.
Yves Agide ?
Un mot, Bruno, c'est que pour nous c'est évident, mais il faut faire attention. Il y a énormément de maladies neurodégénératives. On parle des deux plus fréquentes. Tu as dit maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson.
On dit d'ailleurs « et apparentée ».
Et apparenté, parce qu'il y a, je sais pas, des maladies de Parkinson, on devrait dire les maladies de Parkinson, on doit dire aussi les maladies d'Alzheimer, parce qu'il y a plein de formes différentes, peut-être avec des mécanismes et des causes différentes d'ailleurs. Mais ce qui est très important que les auditeurs doivent bien comprendre, c'est que quand vous avez une maladie d'Alzheimer, c'est la partie superficielle du cerveau qui est touchée, ce qu'on appelle le cortex cérébral. Et là, si vous voulez, vous avez un déficit du stockage, comme l'a dit Bruno Dubois tout à l'heure. C'est-à-dire que vraiment les neurones disparaissent, il n'y a plus de stockage. Dans une maladie comme la maladie de Parkinson, il peut y avoir des troubles de mémoire, mais disons de manière simplifiée. À ce moment-là, les informations que vous avez, elles sont stockées parce que le cortex cérébral est intact, up to a certain extent, jusqu'à un certain point. Mais en revanche, la maladie de Parkinson est caractérisée par la perte de neurones dans des structures très profondes du cerveau et qui font que le patient aura des difficultés pour se rappeler. Ça sera stocké, mais il aura du mal pour aller chercher les informations. Autrement dit, en deux mots, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui touche le cortex cérébral avec des troubles de stockage. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui a des lésions profondes et qui a des troubles du rappel. La difficulté de se rappeler, alors que les souvenirs sont là.
Ces maladies-là, donc Alzheimer, Parkinson et apparentés, on sait maintenant bien les décrire, on sait en faire un diagnostic clinique. En revanche, on ne sait toujours absolument pas d'où ça vient, Bruno Dubois.
Oui, vous avez raison, par certains côtés, oui. Par d'autres côtés, si. On sait quand même d'où ça vient, parce qu'on a identifié les lésions. Donc on a, si vous voulez, une sorte de machinerie, on a une cascade biologique qui maintenant est assez connue. Là, vous avez raison, c'est qu'on ne sait pas ce qui détermine le début de la cascade. Mmh. On ne sait pas d'où ça part. Comme je dis, de façon un peu triviale, on ne connaît pas A, mais on connaît B qui déclenche C, qui déclenche D, qui déclenche E jusqu'aux symptômes.
Mais on ne connaît pas A.
Mais on ne connaît pas A, effectivement. Mmh. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles il y a une fragilité. Alors on sait que cette fragilité, est, comme on le dit, elle est plurifactorielle. Elle dépend de facteurs génétiques qui vont entraîner une sorte de susceptibilité génétique particulière à des agressions. Et puis, il y a des agressions environnementales. Et puis, il y a le vieillissement. Il y a un certain nombre de facteurs qui vont concourir à faire que ça va se déclarer. Mais en gros, génétique et épigénétique, conditions de vie, sont les deux éléments fondamentaux.
Je complète un peu avec une idée que nous défendons tous les deux, c'est que la maladie d'Alzheimer, contrairement à l'idée répandue, je crois que c'est très important à le savoir, est une maladie qui est très peu héréditaire. Les cas héréditaires sont rares. On dirait quoi ? Moins de 2%.
1%.
0,3%.
Donc c'est une forme particulière de la maladie d'Alzheimer qui serait génétique et qui apparaît très tôt.
Qui apparaît très tôt, qui est plutôt plus sévère, mais le mot de prédisposition est très important. C'est-à-dire que c'est pas, quand vous avez une maladie héréditaire, il y a une anomalie sur un chromosome, sur un gène, et qui peut se transmettre éventuellement chez les enfants. Mais dans ce cas-là, c'est probablement des anomalies multiples, comme nous en avons tous. Vous en avez peut-être 30 d'anomalies. Moi, j'en ai 31 et c'est moi qui vais faire la maladie d'Alzheimer parce que j'ai une mutation que vous n'avez pas. Vous comprenez? Donc, cette idée de prédisposition est génétique et bien, mais ça n'est pas une maladie héréditaire dans la plupart des cas.
On sait néanmoins qu'il y a un gène. Il y a un gène qui, quand il présente une mutation, APOE4, c'est ça?
Ah, c'est compliqué. C'est autre chose.
Bruno Dubois, dites-nous justement.
On pourrait résumer. Il y a trois particularités génétiques. Enfin, il y a trois statuts génétiques différents. Il y a ce dont parlait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire la mutation causale. D'accord? C'est-à-dire, quand vous avez la mutation du gène, à tous les coups, vous aurez la maladie. Mutation causale, on a ça dans la maladie de Huntington, on a ça dans l'Alzheimer. Dans l'Alzheimer, c'est très rare. Yves a raison de le rappeler, c'est très rare.
Moins de 1%.
Voilà. Vous avez autre chose qui sont des, on pourrait les résumer des autres, c'est sous un même vocable, sont des facteurs de susceptibilité génétique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisants par eux-mêmes pour déclencher la maladie, mais leur présence augmente le risque que vous la développiez, probablement parce que ça vous rend plus vulnérable à d'autres facteurs. Alors, APOE4 a un poids très important. Quand on est APOE4 et quand on a la malchance d'être, on dit homozygote APOE4.
C'est-à-dire d'avoir les deux allèles.
Absolument. Là, on a malheureusement beaucoup, beaucoup de risques de développer la maladie si on vit assez longtemps pour arriver à l'âge où la maladie peut s'exprimer. Mais vous avez d'autres particularités génétiques, ou on pourrait dire mutations génétiques beaucoup plus fines, qui augmentent de très peu le risque. Vous voyez, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le TREM1, des anomalies dont la présence augmente un petit peu. Alors statistiquement, sur les très grands échantillons, ça devient significatif. Mais au niveau individuel, ça n'impacte pas du tout, ou très très peu, notre risque.
J'ai lu dans les... parce qu'il y a toujours beaucoup de recherches et de publications sur pour trouver ce A, l'origine de la maladie. J'ai vu que ça pouvait être le fait d'une mycose récemment, d'un champignon. Bruno Dubois, vous validez cette hypothèse?
On entend tout. Oui.
Concernant Alzheimer, c'est vrai qu'on lit beaucoup, beaucoup de choses, et il y a une littérature très très abondante.
Non, je crois qu'enfin, si vous voulez, s'il y avait des causes qui étaient très très évidentes, elles seraient déjà sorties. Parce qu'il y a tellement, des bases de données tellement importantes dans le monde entier, tout le monde travaille là-dessus. Je pense qu'on l'aurait identifié. Et je ne vois pas comment une mycose pourrait entraîner une dégénérescence aussi spécifique. Mais il faut rester ouvert.
Il peut y avoir des facteurs déclenchants. Il faut comprendre que corrélation n'est pas relation. Donc, nous pouvons ici parler de découvertes que dans la mesure, c'est scientifiquement établi. Scientifiquement établi, il n'y a aucune relation entre une infection, une mycose et autre chose, et même un traumatisme et la maladie d'Alzheimer. Ceci étant, de temps en temps, vous allez avoir quelqu'un qui aura une mycose, puis qui aura en même temps la maladie d'Alzheimer. Alors on va se dire, il y a une relation entre les deux, une corrélation, mais ça ne veut pas dire que l'un détermine l'autre. Et ça, je me tourne vers le grand spécialiste des médias que vous êtes, et je crois qu'ici vous faites très attention, mais bien souvent dans les médias, on lit beaucoup de bêtises.
On en reparlera, parce que c'est vrai que concernant les maladies d'Alzheimer et apparentées, ça produit une littérature parfois un peu exotique. Ce qui est intéressant en revanche, c'est qu'il y a une forte composante sociale. Je vous propose d'écouter Boris Cyrulnik. C'est un extrait du film Maladie d'Alzheimer ou Future Renaissance de notre partenaire le CNR Image, un film qui date de 2010. Boris Cyrulnik.
Dans notre culture, là, c'est une maladie grave. On travaille avec des anthropologues, des sinologues, et je leur dis, écoute, tu passes 6 mois à Pékin, 6 mois à Lyon, est-ce que tu voudrais bien demander aux Chinois comment ils font pour leur diagnostic d'Alzheimer? Il revient, il dit, ils savent faire le diagnostic d'Alzheimer comme nous, parce qu'ils ont les mêmes outils techniques, ils savent faire des prélèvements, ils savent faire les... Mais ils considèrent que c'est pas une maladie. Comment ça? Tu perds l'accès aux mots, tu perds la mémoire des mots, tu te reconnais plus dans l'espace et le temps, tu dis bonjour madame à ta fille, t'as des troubles sphinctériens, tu as plus du tout de mémoire immédiate, tu sais plus qui tu es, tu te reconnais plus dans le miroir, et ils considèrent que c'est pas une maladie. Et oui, nous explique François Lupu, ils ont une représentation du temps cyclique. Donc, quand maman commence sa maladie d'Alzheimer, c'est pas très grave. Il suffit d'attendre qu'elle redevienne jeune. Donc, ils ont cette représentation d'un temps cyclique, fait qu'ils ont une tolérance, une indulgence extrême avec leurs malades d'Alzheimer qui ont les mêmes lésions neurologiques et pas du tout les mêmes symptômes. Par exemple, il n'y a pas de symptômes d'agressivité, puisqu'il suffit d'attendre. Ben, elle dit des bêtises, bon, ben, on va attendre qu'elle redevienne jeune. Alors que dans un Occident qui est toujours au sprint, une mère qui se perd, c'est du temps perdu. Une mère qui ne peut plus vivre seule, c'est un poids énorme pour la famille. On ne peut pas courir le monde, il faut changer de métier souvent. Donc, une personne sur trois déprime quand il y a un Alzheimer dans la famille, alors que dans une culture où la représentation du temps est cyclique, la famille ne déprime pas, il suffit d'attendre.
Boris Cyrulnik, les mêmes lésions ne créent pas les mêmes symptômes. Imagine, ça vous fait réagir ?
Notre ami Boris Cyrulnik dit quelque chose qui est très particulier, mais qui n'est pas étonnant. Un, il faut se rappeler que dans le temps, la maladie d'Alzheimer n'était pas une maladie. On disait que les gens perdaient la tête. Hein.
Avant la dernière guerre.
On disait démence sénile, oui, mais on disait que c'est les vieux perdent la tête. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça. La deuxième chose importante à savoir, c'est que si vous regardez les lésions, disons, au microscope, sur le cerveau de quelqu'un qui est malade d'Alzheimer, et par rapport à des gens qui ont un vieillissement normal, dans leur cortex, justement, eh bien, on s'aperçoit que c'est les mêmes lésions. C'est les mêmes lésions. La question, je simplifie un peu, c'est en quantité. Le problème, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, vous avez une quantité d'anomalies histologiques au microscope qui n'existent pas chez un sujet. Mais les lésions eux-mêmes, la caractéristique des lésions elles-mêmes est voisine ou sinon identique.
Bruno Dubois ?
Oui, je pense que cette interview est intéressante, mais si vous voulez, il faut distinguer la cause et les effets. C'est ce que nous dit Boris Cyrulnik dans cet exposé, c'est pas que les maladies soient différentes, c'est que la façon dont l'entourage accompagne les malades a un impact sur l'expression sémiologique, l'expression des symptômes des maladies qui sont les mêmes. Donc là, je crois qu'il faut quand même remettre un peu les choses dans leur contexte. Et c'est sûr que, et c'est certain que la façon dont l'entourage se comporte avec les malades, vous avez l'exemple qui est remarquable de Madame Roumanoff, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, elle explique que la façon qu'elle a eue de prendre le contre-pied de tous les troubles de son mari, en prenant ça un peu comme un événement banal, enfin bon, a totalement modifié la façon dont l'évolution de la maladie a pu se faire. Donc c'est indiscutable que la tolérance de l'entourage, le fait de ne pas se bloquer, le fait d'accompagner le patient, le fait de ne pas reprendre quand il se trompe, tous ces comportements ont un impact indiscutable sur la qualité de vie de ces patients, c'est certain.
Ça fait très peu de temps qu'on prend en compte, qu'on inclut les aidants dans les parcours de soins pour accompagner les personnes malades.
Vous avez raison, c'était la force des plans successifs en France. Il faut reconnaître que les plans, il y a eu 4 plans qui tous ont insisté sur l'accompagnement. Et je dirais même qu'avec Yves à la Salpêtrière, on a été sur ce plan-là. On a toujours eu des psychologues parce qu'on sait que ces maladies neurodégénératives ont des impacts sur les troubles psychologiques des patients et surtout des accompagnants et des familles.
Yves, Agide ?
Oui, deux réflexions. D'abord, la maladie d'Alzheimer survenant chez des sujets âgés, comme l'espérance de vie de la population augmente, évidemment, il y a de plus en plus de cas. Donc on a besoin de prise en charge, d'autant qu'il n'y a pas de médicaments qui soient capables d'arrêter l'évolution de la maladie. Mais je voulais aussi une réflexion un peu plus philosophique. Vous avez l'air de dire, oui, il y a un cerveau qui est malade, mais il faut tenir compte de l'environnement. Mais le cerveau, votre cerveau, tout seul, n'a aucun sens. Il n'a de sens que s'il est dans l'environnement. Il n'a de sens que s'il est dans la société. Parce qu'avec votre cerveau, vous percevez ce qui se passe dans la société et vous agissez, vous êtes en quelque sorte en dérivation sur l'environnement. Donc, chez le sujet normal, c'est comme ça. Et chez le sujet d'Alzheimer, c'est encore plus important.
Vous dites effectivement, on vieillit, la société vieillit, on vit de plus en plus vieux, donc il y a de plus en plus de cas de maladies d'Alzheimer diagnostiquées. De quelles statistiques dispose-t-on aujourd'hui ? Est-ce qu'on est plus malade qu'avant, moins qu'avant, Bruno Dubois ?
On est plus malade qu'avant pour la bonne et simple raison qu'on vit plus longtemps. Et comme je ne dis pas que la maladie est due à l'âge, mais elle est liée à l'âge dans son expression, plus les gens vivent longtemps, plus ils ont de risques d'aller vers l'âge où la maladie devient évidente. J'ai coutume de dire que quand on a pas eu la chance de mourir d'un accident de voiture à 40 ans quand on conduisait très vite ou l'infarctus à 60 ans parce qu'on fumait, etc. Et quand on a passé tous ces écueils de la vie, eh bien, on va doucement, tranquillement, tous ensemble, vous, Yves, moi, vers l'âge où...
On a une chance d'avoir la maladie, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, Dieu merci.
Aujourd'hui, c'est combien de cas en France? Vous avez des chiffres en tête?
En réalité, on ne le sait pas. Ce sont des estimations qui sont faites par des sortes on fait des analyses sur le plan régional et puis on rapporte à l'ensemble de la population. On arrive au chiffre de 860 000 patients atteints de maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est le chiffre qu'on répète.
Méthode scientifique, Nicolas Martin. Take a walk through the land of shadows.
Take a walk through the peaceful meadows. Memories Can't Wait, les souvenirs n'attendent pas des Talking Heads, c'est le choix de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Il est 16h42, nous poursuivons notre conversation autour de la mémoire et des maladies neurodégénératives avec Bruno Dubois, professeur de neurologie à l'université Pierre et Marie Curie, et Yves Agide, fondateur et directeur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. On le disait juste avant cette petite pause musicale, il n'y a pas de traitement des maladies neurodégénératives à l'heure actuelle. Faut le redire parce qu'il y a des.
Je m'élève contre cette assertion, si vous voulez. Si il y a des traitements, le problème c'est qu'il y a des traitements. Il n'y a pas de traitement curatif. On peut pas stopper l'évolution de la maladie. On espère, et Bruno en parlera beaucoup mieux que moi, qu'avec des diagnostics précoces, comme on va disposer probablement prochainement de médicaments qui vont ralentir l'évolution de la maladie, qu'on pourra éviter des évolutions catastrophiques, il le dira certainement. Mais on a quand même une prise en charge de ces malades considérable. Mmh. C'est ce que vous faites à la Salpêtrière dans la clinique de mémoire, en donnant des conseils, en établissant une stratégie. On peut, il y a des médicaments qui permettent un peu d'améliorer la mémoire, partiellement, il y a des médicaments qui permettent d'éviter d'être déprimé. Il y a des médicaments qui permettent d'être angoissé, il y a des médicaments qui permettent d'avoir des troubles, d'éviter des troubles du comportement, etc. Bref, d'assurer quand même la prise en charge idéale pour le patient lui-même qui ne doit pas souffrir et aussi pour l'entourage. Il faut s'occuper, faire en sorte que ce que vous appelez l'aidant, c'est-à-dire souvent le conjoint, il faut pouvoir l'aider. Ça, c'est élémentaire, mais il y a aussi d'autres moyens. Vous parliez de l'environnement tout à l'heure. On peut imaginer toute une série de prises en charge avec en distrayant les malades, en les promenant, en leur faisant écouter de la musique,
en
on appelle
stimulant.
Même ça de la musicothérapie, etc.
De l'art-thérapie. Bruno Dubois, donc malgré tout, effectivement, il y a une prise en charge et on peut, comme vient de le dire Yves Agide, réduire les symptômes ou les adoucir un peu, mais on ne soigne pas ces maladies. On ne sait pas l'interrompre l'évolution des maladies.
C'est vrai, avec un peu comme l'a dit Yves, cela dit, il y a quand même, le ciel n'est pas aussi sombre que cela, on commence à entrevoir un peu de ciel bleu, quelques rayons de lumière qui tiennent au fait que les médicaments on juge leur efficacité sur les symptômes. Alors de ce côté-là, c'est vrai, on est déçu. Mais on peut aussi juger leur efficacité sur les lésions. Car aujourd'hui, on peut visualiser les lésions de la maladie d'Alzheimer en particulier grâce à des moyens d'investigation modernes. On peut voir les lésions de ces patients. Mmh. Et dans ces essais thérapeutiques, même dans les essais qui n'ont pas eu de résultats positifs sur les symptômes, on a vu une diminution significative des lésions cérébrales de la maladie. Alors, voilà l'équation. Elle est intéressante. On a des médicaments qui jouent sur les lésions, mais pas encore sur les symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous sommes confrontés à la résolution de cette équation. Et une des hypothèses, je ne dis pas que c'est la bonne, mais une des hypothèses, c'est de dire, c'est parce que peut-être on donne ces médicaments trop tardivement chez des patients trop évolués, qu'alors qu'on a un effet sur les lésions, on n'a malheureusement pas la traduction sur les symptômes, parce que c'est tellement désorganisé dans le cerveau qu'on ne peut pas espérer que les choses reviennent. Alors, à partir de là, on est dans une stratégie totalement différente qui est de dire il faut probablement essayer de donner ces traitements le plus tôt possible. Et je vous l'ai dit, il y a maintenant la possibilité de visualiser les lésions chez les gens, alors même qu'ils ont juste les premiers symptômes, peut-être même avant qu'ils aient les premiers symptômes. Et on est dans cette stratégie, nous on développe ça avec beaucoup d'enthousiasme, c'est de travailler sur la phase, je dirais, préclinique, de façon préventive, repérer des gens qui ont les lésions et les traiter. Bon, c'est de la science-fiction, on oublie, hein, mais dans 10 ans on en reparlera, et il est possible que ça marche, et moi j'y crois.
Yves Agide, c'est l'enjeu aujourd'hui principal autour des maladies neurodégénératives, donc comme vient de le dire Bruno Dubois, c'est le diagnostic précoce. On peut diagnostiquer un Alzheimer très tôt, 40 ans, 50 ans?
Vous posez la question fondamentale du diagnostic de cette maladie. Faire très attention, c'est un diagnostic qui est très difficile à faire, même dans des formes évoluées. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a des gens qui perdent un peu plus la mémoire que d'autres alors qu'ils n'ont pas de maladie d'Alzheimer. On peut être très déprimé, on peut avoir ce qu'on appelle des oublis bénins, c'est-à-dire qu'on ne se rappelle plus le nom de machin, comment il s'appelle, etc. Puis le soir, en mangeant la soupe, hop, le nom revient, etc. Chez des gens surmenés, par exemple, etc. Mais il faut aussi voir une chose, c'est que ces maladies, j'ai bien dit, ces maladies, il n'y a pas une maladie, il y en a plusieurs. Au fond, on pourrait presque penser que les maladies d'Alzheimer, c'est comme une succession de maladies rares. Et il est possible que chaque sous-type de ces maladies qui commence à être identifié, c'est surtout vrai pour la maladie de Parkinson d'ailleurs, mais ça commence à l'être pour la maladie d'Alzheimer, nécessite un traitement spécifique, approprié, qui marchera chez A, mais qui ne marchera pas chez B.
J'ai vu que votre équipe, en parlant de Parkinson à l'ICM, vient de trouver une molécule qui réussit justement à franchir la barrière hémato-encéphalique, une molécule qui s'appelle 3-phényl-6-ammoniquinolaxine, ammoniquinolaxine, c'est ça?
Oui, c'est pas très important, mais en effet, c'est une possibilité très grande, effectivement, parce que les travaux expérimentaux ont montré qu'on pouvait, sur des modèles de maladie de Parkinson chez l'animal, arrêter la perte des neurones dopaminergiques. Mais il y a beaucoup de molécules qui font ça. Le problème, c'est le terrible passage de la culture de cellules dans la boîte de Pétri. Vous avez des résultats spectaculaires. Et puis, passer à l'homme. Je rappelle qu'au cours des 10 dernières années, dans cette maladie d'Alzheimer, vous avez eu près de 1000 essais thérapeutiques qui ont été faits et le pourcentage d'échecs était de 99,6%.
Vous avez même dit l'absence de solution thérapeutique pour traiter les maladies neurodégénératives était un des grands échecs de la médecine. Imagine, son
oui, oui, enfin, je ne suis pas le seul à dire des
Bruno
choses
Dubois.
Aussi banales.
Non, je voulais simplement revenir sur la formulation de votre question. Vous avez dit, je crois, je ne sais plus exactement, mais vous avez dit on est maintenant vers le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer à 40-50 ans. Attention, il ne faut pas se tromper. Quand on dit diagnostic précoce, ce n'est pas le diagnostic très tôt dans la vie.
Avant.
C'est le diagnostic précoce de la maladie. C'est-à-dire que la maladie, aujourd'hui par exemple, nous avons appris, et on l'enseignait encore il n'y a pas longtemps à nos étudiants, que la maladie d'Alzheimer était une démence. C'est-à-dire qu'elle était diagnostiquée 7 ou 8 ans après le début des symptômes. Et quand on milite pour le diagnostic précoce, c'est simplement que l'on dit qu'on doit pouvoir aujourd'hui, grâce aux biomarqueurs, faire le diagnostic un peu avant, Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire le diagnostic à 40 ans, bien sûr que non.
On peut expliquer peut-être aussi rapidement pourquoi c'est si difficile de soigner les maladies du cerveau. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a une barrière qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique et on absolument. A du mal à faire passer des molécules à l'intérieur, à Bruno Dubois.
Vous avez absolument raison et c'est un des grands problèmes de la thérapeutique dans les maladies neurodégénératives, c'est que finalement, ce sont des médicaments qui ne pénètrent mal. Par exemple, les fameux anticorps monoclonaux, ces fameux médicaments dont je vous ai dit d'ailleurs qu'ils agissaient sur les lésions, eh bien, on a calculé que le taux de pénétration dans le cerveau est inférieur à 1%. Vous voyez, c'est très très faible. Et il y a actuellement, à la Salpêtrière, un travail qui est très intéressant, qu'il faut suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, qui est le travail réalisé par un jeune neurochirurgien qui s'appelle Carpentier, Alexandre Carpentier, et qui est en train de mettre en place un système qui permet, par des ultrasons couplés à une technique particulière, d'augmenter les capacités de pénétration de la barrière hémato-encéphalique.
Ce qui changerait beaucoup de choses, effectivement, Yves-Agide.
Non, un mot sur cette barrière hémato-encéphalique, simplement pour dire qu'heureusement qu'on l'a. Ne passe de notre corps vers le cerveau que des toutes petites molécules, des acides aminés, le glucose, l'oxygène qui est absolument nécessaire pour le fonctionnement de notre cerveau. Vous savez que le cerveau consomme 20% de l'énergie de notre corps alors que ça ne représente qu'un tout petit, c'est moins d'un kilo et demi sur 70 kilos, c'est rien du tout. Donc heureusement cette barrière hémato-encéphalique protège quand même.
On a parlé donc de la recherche de molécules, donc les travaux qui sont en cours. Vous évoquiez, Bruno Dubois, les anticorps. Il y a d'autres types d'études. On ne va pas rentrer complètement dans le détail. Mais il y a en revanche des résultats tangibles qui ont été obtenus grâce à un protocole qui s'appelle le protocole MEND. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Bruno Dubois ? MEND. Non, c'est des patients qui souffraient de la maladie d'Alzheimer et qui ont réussi à faire régresser leurs symptômes, notamment grâce à des régimes pauvres en glucides, avec du jeûne, avec tout un protocole de vie, du yoga, de la méditation. Voilà, ça veut dire qu'on peut intervenir sur les symptômes grâce à des actions périphériques, donc sur la nourriture, le mode de vie. Bruno Dubois.
Vous touchez du doigt un sujet qui est très 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 actuel. Très à la mode, je dirais, et qui est une source de publication et de recherche qui sont très, très, très importantes. C'est que ce qu'on appelle les interventions multidomaines. C'est-à-dire que probablement que si on agit sur différents secteurs, alors qu'ils sont l'hygiène alimentaire, qu'ils sont l'activité physique, qui sont la simulation cognitive, qui sont un certain nombre de paramètres, eh bien, on observe une incidence sur le taux de démence et sur ce qu'on appelle le déclin cognitif. Mais ça ne me surprend pas. Quand on traite les facteurs de risque vasculaire, quand on diminue l'hypertension artérielle, on diminue le risque de petits accidents vasculaires cérébraux. Quand on contrôle le diabète, on améliore la circulation cérébrale. Et tout ça, ça a un impact sur la cognition. Mais il y a une petite erreur qui est de faire l'assimilation entre diminution du déclin cognitif, diminution de la fréquence des démences, et diminution de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une démence particulière, et le fait de traiter le diabète n'a probablement pas d'impact direct, en tout cas, sur la prévalence de la maladie d'Alzheimer. Sauf que, en contrôlant tous ces facteurs, d'accord, on améliore probablement l'oxygénation du cerveau, et donc on va retarder l'expression d'une maladie d'Alzheimer qu'on a par ailleurs. Vous voyez, ces lésions dont je vous ai parlé, ces lésions dormantes, elles vont s'exprimer plus ou moins tôt, suivant qu'on a ou pas un bon lit d'aval. Vous voyez.
Yves-Agide ?
Je crois qu'il faut bien distinguer, quand vous parlez de thérapeutique, de traitement, le traitement curatif, c'est-à-dire arrêter la perte et la souffrance des cellules nerveuses, des symptômes. Si vous avez une perte des cellules nerveuses, ça va entraîner des symptômes. Toutes les techniques que vous donnez là, entre parenthèses, qui sont très bonnes pour toute personne, c'est très bien de faire du sport, c'est très bien de réfléchir un petit peu, c'est très bien de faire des mots croisés, etc., 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 ça peut améliorer les symptômes, de même que chez un sujet normal, ça va lui permettre d'être plus actif intellectuellement. Il faut bien distinguer l'amélioration des symptômes et malheureusement, tout de même, en gros, l'évolution des lésions elles-mêmes, de la perte neuronale, il n'y a pour l'instant rien. Pour l'instant, mais Vous pense qu'il faut avoir beaucoup d'espoir quand même à court terme, parce que on voit bien que la recherche fait des progrès absolument spectaculaires et les industriels suivent de très très près tout ce qu'on fait.
C'est-à-dire qu'il est envisageable de dire qu'il y aura un jour, dans 5, 10, 15, 20 ans, un vaccin contre la maladie d'Alzheimer, Bruno Dubois ?
Bien possible.
Oui, parce qu'on le sait, on le sait. Alors appelons-le vaccin ou anticorps monoclonal ou inhibiteur de la BACE, qu'importe. Mais on le sait, parce que justement, je vous disais que ça, à partir du moment où ça impacte les lésions, ça impactera les symptômes. Il n'y a pas de discussion, sauf qu'il faut repérer des patients qui vont pouvoir bénéficier de ces médicaments. Mais on a déjà des éléments de réponse. Il y a un anticorps monoclonal qui s'appelle le solanezumab, qui a montré un effet chez les sujets qui ont une démence légère au début. Bon, il y a la aducanumab qui vient de sortir, mm-hmm. alors qui est à phase 1.
L'étude a été publiée fin août, hein,
oui,
le 31 août.
Absolument, phase 1 sur une petite série. Mais
ce sont des anticorps.
En l'occurrence, mais il y a d'autres voies. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que ça a été étudié chez les patients prodromaux. Et les patients prodromaux, c'est nous qui avons un peu introduit ce concept de patients très très débutants, et on peut repérer maintenant ces sujets-là, et ils ont utilisé cette approche, et ça y est, ça
alors,
marche.
Concrètement, par exemple, comment ça fonctionne aducanumab? C'est des anticorps qui vont détruire l'amyloïde
exactement,
bêta.
La bêta amyloïde, absolument. Alors, on pourrait développer l'argument, mais rapidement, ce qui est intéressant, c'est que il y a un effet de clearance, qu'on appelle d'évacuation des protéines cérébrales, qui va avoir un effet d'ailleurs sur la circulation d'évacuation, et il va créer un petit œdème. Eh bien, on est maintenant convaincu que les doses à utiliser sont des doses qui sont à la limite de créer l'œdème, et parce que c'est une sorte de conséquence attendue de l'effet thérapeutique.
Mais oui, là, tu parles d'un traitement curatif. Le vaccin, ce serait l'idée de trouver une molécule, un médicament, qui empêcherait l'apparition des premiers symptômes et l'apparition donc antérieure des premières lésions. Je pense que c'est une voie de recherche absolument essentielle qui est mise à profit dans un grand nombre de laboratoires dans le monde, en particulier en France. Donc je crois que c'est une belle voie de recherche. Mais si on trouve ça pour la maladie d'Alzheimer, on va peut-être le trouver avant pour une autre maladie neurogénérative. Alors là, on rentre dans la fiction totale. Est-ce qu'on pourrait le trouver pour simplement le vieillissement cérébral?
Eh bien, on va rester sur cette question finale. Merci beaucoup à tous les deux, Bruno Dubois et Yves Azid. Je précise que dans le cadre de la Semaine de la Mémoire, un village Alzheimer est installé à Paris, place Stalingrad, jusqu'à mercredi pour s'informer sur la maladie et les maladies apparentées. Mercredi, ce sera la 6e journée mondiale officielle de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Léo Quentin, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Élise Leu et au droit d'auteur Cyril Zvetojevic. Et demain, on parlera de biodiversité, d'espèces en danger, de la pertinence ou non de parler de 6e extinction de masse. Dans un tout petit instant, on repart pour une série de 4 LSD, la série documentaire de Perrine Carvran, une semaine sur le divan du psychanalyste. Et nous, eh bien, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.